Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 30e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec Pharaoh's Quest, la série de produits Lego sur le thème de l'Égypte antique. Ça se ressemble beaucoup, mais on refuse de s'y associer car aucun de leurs sets ne contient un petit Jeff en Lego. Bonsoir, je suis Mathieu Bonnet, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Hello!
Pas trop de délai pour un Égyptien, c'est pas pire, c'est pas pire. Fait comment ça va les gars?
Ben, tu sais. C'est ça, ouais. M'en est.
Fait chaud, fait chaud.
Bon, ben, il sait aussi. Fait qu'arrête de te plaindre.
Tout ça. Ouais.
Fait que qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, Dan?
Ben, c'était le retour des vacances. Hein. Semblerait que c'est fini ce temps-là. En fait, au moment que l'épisode sort, les vacances sont finies depuis un bout, mais tu sais.
Ouais,
c'est ça. Pendant la dernière fin de semaine, dans le fond, là, après mon 1000 km et mon 14 heures passé sa route que je parlais la semaine passée, là, ben, j'ai enfin pu jouer un peu à WoW. Puis il y avait du nouveau content. Qui va être disparu au moment où est-ce que l'épisode va sortir, là, parce que c'est la pré-patch avant l'expansion qui va être sortie. J'ai pu enfin essayer le Demon Hunter. Vraiment une classe amusante. C'est le fun à jouer. C'est dynamique. Les animations sont vraiment malades du combat. Là. C'est un beau petit bonbon. Je pense que ça va être une classe bien appréciée. Il y avait aussi des événements de pré-expansion où est-ce qu'il y avait les démons qui envahissaient certains villages sur la planète, sur Azeroth comme tel. Puis c'était à nous les héros de se promener d'un village à l'autre pour aller sauver les gens. C'était vraiment cool. Là. Il t'arrive une espèce de gros genre de portal qui a l'air d'un spaceship dans le ciel. Il drop des démons partout. C'est assez nice. Puis ça fait un beau moment où est-ce que les joueurs vont travailler ensemble, les deux factions ensemble pour battre les démons. Ça a un petit côté vraiment, là, un petit feel de « OK, on se fait envahir notre planète, là, on va arrêter de se taper sa gueule entre nous autres pour se défendre. » C'est quelque chose de le fun. Puis ça nous permet de voyager un peu partout sur Azeroth.
Est-ce que je suis pas un fan de Warcraft depuis longtemps, mais c'était pas genre déjà ça le setup depuis Warcraft 3 quand que les...
Oui, mais non.
Okay,
il y a tout le temps comme une raison pour se taper sa gueule pareil à la place de...
Excusez.
mais je trouve ça intéressant, Dan, parce que cette mécanique-là, d'avoir des portails dans des villages, puis dans des points, puis t'as une raison de t'associer avec la horde, finalement. Là. Ça me rappelle... c'est en quelle année? Anarchy Online, en genre 99, 98.
Oh shit! J'ai des flashbacks de cégep.
Hashtag old man.
ça remonte loin en arrière, mais c'était un des premiers MMORPG, finalement, là, dans le temps d'EverQuest et ces choses-là. Là. Qui avait une expansion avec une mécanique semblable, où tu avais des attaques extraterrestres qui spawnaient, puis tu pouvais t'allier aux autres factions pour aller te battre contre eux autres.
Mais tu sais, je pense pas que c'est une mécanique qui va être là pendant toute l'expansion qui s'en vient. Je pense que c'est le fun là, pour une chose, mais qu'à un moment donné, ça deviendrait comme. Si c'était juste ça, ce serait un peu gossant. En même temps, l'histoire est faite autour du fait qu'on s'allie, mais dans les premières quêtes qu'il y a, parce qu'il y a quand même des quêtes qui vont mener à l'expansion, si tu fais la quête du côté de l'Alliance, tu as l'impression de te faire backstabber solide par la Horde. Comme dans la cinématique, puis tout ça, tu as comme la Horde qui se sauve pendant que ton roi est en train de se faire buter par des démons, puis tu as l'impression d'avoir la Horde qui fout le camp. Puis tu es comme, The fuck?
Tu joues Alliance, toi?
Dernièrement, oui. Là, je ne l'accepte pas encore si bien que ça, mais c'est pour peut-être me remettre à raider. Je vous en reparle si ça débloque. Puis là, je l'ai rejoué Horde, parce que j'ai encore des persos Horde, pour voir l'autre côté. Puis dans le fond, c'est parce qu'ils sauvent parce que de notre bord aussi, notre roi, le War Chief, vient de se faire stabber par un démon. Puis là, tu sais, c'est comme, OK, on le ramasse puis on s'en va. Fait qu'on sonne la retraite pour se sauver le cul parce qu'il nous attaque les démons de l'autre bord, mais d'en bas de la falaise, l'Alliance le voit pas.
Ouais.
Fait qu'on a l'impression d'être des astis de trous de cul.
Bref, ça ramène le conflit avec personne de vraiment coupable.
Voilà.
Fait que,
Puis les deux meurent. Les deux. Je spoiler, en tout cas. ça fait deux semaines. Ouais,
bon, moi qui voulais jouer.
Mais, en revenant.
C'est ça. Fait que tu sais, c'est quand même, il y a du développement puis des personnages qui sont là depuis toujours qui meurent. Vraiment. Puis je pense pas là, qu'ils vont faire un « Ah, ils sont venus! »
S'il vous plaît,
c'est...
faites pas
non,
ça.
Non, mais je penserais pas. Bref, quand même, beaucoup de plaisir.
Sont-ils morts dans des cutscenes?
Ouais. Donc, ils sont morts pour eux.
Ouais.
Et voilà.
Aussi, nouvelle aventure d'Hearthstone, beaucoup de stock de Blizzard pendant que j'étais parti en vacances. One Night at Karazhan, qui est le retour dans un raid beaucoup aimé, mais comme si c'était un party disco organisé par Medivh. Puis, dans les aventures, il y a du contenu single player qui est quand même le fun à faire. Puis, il y a une des missions qui est une refonte du chess event qu'il y avait dans le raid de Karazhan où est-ce que tu joues aux échecs dans le raid réellement contre les IP qui trichent en plus là. C'est très drôle, mais t'as cet event-là puis ça feel un peu comme une game d'échecs pour vrai parce que ton deck puis le deck de l'ennemi, c'est vraiment des pièces d'échecs, puis la manière que tu les places. Fait, il paraît que la version héroïque, que j'ai pas encore essayé, c'est un des plus beaux puzzles qu'il y a dans Hearthstone depuis le début, parce qu'il faut vraiment que tu penses où est-ce que tu vas placer tes pièces, de quelle façon tu vas les organiser, parce qu'après ça, il y a des attaques qui se font automatiquement. Mais il y a un beau puzzle. Ça, pis,
ça me fait penser à l'idée d'avoir une structure de puzzle comme ça. Là. T'as-tu déjà joué, Dan? Ben, Jeff, là. Les jeux de Magic qu'ils ont fait là, récemment avec toute la série des Planeswalker en jeu vidéo.
Ouais, un petit peu.
Bon, tout le mode puzzle qu'il y avait là-dedans, là, c'était malade, là. C'était, tu commençais dans le fond un scénario où tu devais forcément échouer, à moins de jouer parfaitement les cartes qui étaient devant toi. Puis tu sais, des fois, là, c'était des histoires de te recréer des tours, de contrôler des créatures. Puis il y en a, là, tu stretchais la game pendant genre 10 tours encore avant de réussir à finir. Mais c'était une mort assurée au premier tour, là.
Mais ça, c'est vraiment encore plus génial dans ce setting-là si tu veux devenir un bon joueur de Magic, parce que ça te permet de trouver des façons, tu sais, justement, de régler un puzzle. Tu le sais qu'il y a une façon de le régler avec les cartes qui existent pour elle. Ici, c'est un autre domaine, mais le feel est intéressant.
Pour moi, je suis pas un fan de Magic en soi. J'admire le produit. Je trouve le style de jeu, de méta-jeu, là, où est-ce que tu joues quand t'es pas en train de jouer, finalement, monter ton deck. Je trouve ça fascinant, mais c'est pas quelque chose dans quoi je me sens prêt à embarquer. Mais justement, ça m'a donné une fenêtre dans ce genre de profondeur intense-là qu'a Magic. Fait que c'est un mode que j'ai beaucoup aimé à jouer.
Parenthèse, là, complètement inutile, j'ai écouté il y a quelques semaines un documentaire justement qui parlait des joueurs de Magic qui veulent faire le World Tournament, là, j'oublie les noms, qui était sur Netflix. Puis cet aspect-là est un peu touché. Vraiment un bon documentaire, là. C'est plate que je trouve plus le nom. Je trouverai ça puis je vous mettrai ça sur les réseaux sociaux. Là, mais ça donne une petite vision sur cet aspect-là de jeu où quand tu joues à ce niveau-là de professionnel, si on veut, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses en plus de jouer sans faire aucune faute. Là.
Bref, les gars, changez de sujet parce que j'aurai une rechute. Là.
Mais pas que ta rechute pendant que tu es à l'autre bout de la planète, tu vas pouvoir jouer avec personne puis ça va passer. Parce que moi, c'est ce qui arrive. J'ai une rechute, je suis seul à Saint-Félix, je vais c'est fini.
Le Saint-Félix, le Caire, même combat.
Mais en termes de joueur de Magic, c'est semblable. Mais après la fin de semaine, justement, là, où j'ai pu enfin jouer à ces jeux, ma blonde a recommencé à travailler. Moi, il me restait comme 2 jours avant les réunions de début d'année, les affectations, le début des classes. Donc, 2 jours pendant lesquels je devais préparer des podcasts. Puis, une game de Donjons Dragons. Je voudrais hashtag GM World Problem, en tout cas. mais donc, le gaming a pris un deuxième rang. Puis, j'ai pas joué à beaucoup de trucs nouveaux. J'ai surtout continué à terminer des jeux que j'avais commencé avant de partir pour les vacances. Mais avant de partir, j'avais été faire un petit tour au marché aux puces, proche de chez moi, pour voir s'il y avait quelque chose que j'allais pouvoir amener sur la route sur mes consoles portables. Puis j'ai vu une copie d'une version récente de Phoenix Wright. Je ne définis pas beaucoup ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais en reparler tantôt, là, quand même beaucoup. C'est mon segment du podcast. De toute façon, vous le savez, vous avez vu la description. Bon,
mais quand j'écoutais le podcast des gars du sorbet, les sorbets du caractère mou, ils me posaient la question. Ils disaient, est-ce vraiment quelqu'un qui lit ça, les descriptions de pod? Moi, je pense que oui, mais... Bon, s'ils posent la question, je pense qu'eux autres, ils lisent pas. Puis ils nous écoutent. Fait que, ben.
Fait que je peux continuer à faire des teasers. Fait que
tu peux faire semblant que t'as pas dit que t'allais parler de Phoenix Wright.
Avec la discussion qui a suivi, on le sait. c'est un jeu qui m'a toujours intéressé, surtout dans le concept et tout ça, qui est quand même assez différent. Puis j'avais pas vraiment joué, peut-être 1 heure ou 2 avant. Mais ça m'a donné envie de rejouer, mais à partir du début, pas de la version qui était là, parce que je sais qu'il y a une histoire, une narrative qui suit. Bonne nouvelle, il y avait une vente dans l'eShop de Nintendo pour le Phoenix Wright Trilogy au 3DS qui regroupe les 3 premiers volets dans le fond de la série pour un prix ridicule de environ 15$.
Moi, ouais, c'est ça, 16,5 si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça. Fait que j'ai joué à ça. Puis aussi, dernière chose à laquelle j'ai joué cette semaine, mais c'est tout récent pour moi, j'ai installé la version 7 d'Android sur mon téléphone, version Nougat. Puis comme dans toutes les versions d'Android, il y a tout le temps un petit jeu caché quelque part dans dans le menu. Là, tu vas dans le menu système, on clique une couple de fois sur la version. Puis, comment?
Easter egg.
Ouais, le petit Easter egg qui est tout en même place, fait qu'il n'est pas retrouvé. Là. Dans la version 6, là, c'était une version de Flappy Bird où est-ce que tu as un petit bonhomme, un petit robot d'Android qui se promène dans des gros marshmallows. Puis dans la version 7, ben j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que c'est un petit clin d'œil à Pokémon Go. Oh. Quand tu le fais, il apparaît une petite face de chat en bas, une petite icône. Puis vite comme ça, il a l'air de se passer rien du tout.
Ah, ça ressemble à Pokémon Go, pas mal. Voilà.
Quand tu ressors, tu peux aller rajouter dans tes icônes, dans ton tree de notification, là, ta barre de notification en haut, une icône qui est une petite face de chat. Puis quand tu mets cette icône-là, ça devient une petite assiette vide. Quand tu cliques sur la petite assiette, tu peux mettre des treats, du poisson, du poulet, puis ça attire des chats. Puis là, à un moment donné, t'as une notification qui dit « T'as un nouveau chat ». Puis t'as juste une liste de chats. Tu peux changer leur nom. Il s'appelle Cat numéro 1232. C'est tout.
Ah, fait qu'on a maintenant Android virtuel follow chat. C'est
ouais.
fun.
Fait que là, tu mets une treat, il y a un chat. Puis tu mets une treat, puis il y a un autre chat. C'est très drôle. Je l'ai activé. Je sais pas si je vais me tanner, je vais désactiver ou arrêter de mettre de la bouffe dans l'assiette. Tu fais la même chose. C'est quand même amusant. Puis pas mal useless, mais c'est drôle. Yeah. Toi, Matt?
Bon, ben, bon.
Oui?
J'aimerais ça.
Ouais, vas-y. Avec le décalage, j'arrive en retard. je m'en ai dit, dis pas ça à ma blonde, là, elle va vendre son iPhone pour s'acheter un Android.
Ben, je pense qu'on va y dire.
On va y dire. C'est un bon argument.
J'aimerais bien dire que j'ai pu expérimenter le nouveau Android 7.0, mais j'ai un Nexus 5. Et on est maintenant stranded, on est derrière les versions d'Android, donc je n'ai pas pu jouer à Virtual Cat Lady. Mais bon, cela dit, de toute façon, cette semaine, j'ai été vraiment occupé à jouer à un autre jeu que je vais intituler pour les besoins de la cause, on va dire Water Drop Catch, c'est-à-dire pong l'eau qui coule de ton plafond de chambre parce que tu as un problème de toiture. Mm. Ouais, c'est quand même divertissant, mais bref, ça a pas mal préoccupé mon temps de devoir investir sur une nouvelle toiture. Hey, c'est-tu pas intéressant pour personne?
Même voilà. Pour toi?
Ben, crissement, pas pour moi, en fait. Fait que non, j'ai pas eu beaucoup de temps à dédier au gaming parce que ma maison demandait mon attention. Toi, Jeff?
Ah, la vie, hein? Moi, écoute, juste du vieux. Juste du vieux. Sérieux, ça a été une semaine remplie de vieux. Hein? Des pyramides, des momies, des vieilles affaires comme ça.
Brendan Fraser, The Rock.
Brendan Fraser, non, je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Mais pour vrai, non, super intéressant. J'ai rentré dans les pyramides, j'ai vu les momies, j'ai lu des papyrus. Et à travers tout ça, j'ai essayé un petit jeu mobile qui s'appelle Reigns, qui est un jeu de stratégie de cartes qui est disponible. C'est sur iOS, Android puis PC. Là. C'est un petit peu comme si Tinder rencontrait les jeux de stratégie.
Ah, j'ai vu passer dans mes Google Maps.
Sérieusement, le gameplay est assez intéressant. En fait, on est présenté quand on ouvre le jeu par littéralement une interface là, minimaliste à la Tinder là, où on a une carte avec la face d'un personnage qui nous des faces là, avec un dessin minimaliste là, qui représente tous des personnages de royaume. Tu as le fou du roi, la reine, le pape, tu as des soldats, tu as le gouverneur, des choses comme ça. Puis il y a tout un petit flavor text qui viennent te dire quelque chose. Hein. Toi, t'es le roi, puis ils vont te demander, par exemple, il faut construire de plus d'églises parce que les gens perdent la foi, des choses comme ça. Puis tu fais juste swiper de droite ou gauche, en fonction, si tu veux, ben on dit oui à sa requête, on dit non à sa requête, puis chacun des choix...
La réaction de Dan va laisser
c'est très drôle.
Mais chacun des choix va influencer quatre ressources, en fait. Il y a comme la foi, la population, l'armée, puis le trésor, qui est notre argent. Fait qu'il faut faire des choix, puis chacun des choix va faire monter ou descendre une de ces ressources-là, puis il faut les manager. Donc, on veut pas que la foi soit vraiment à 100%, parce qu'à ce moment-là, ben, l'Église prend le contrôle de ton royaume. Tu
puis
veux
là,
pas que la population arrive
dans
à zéro.
Une révolution tranquille. Puis,
c'est pas très tranquille. Il te lapide, puis ça finit là. Il t'écartèle. Ça dépend de ce qui se passe.
Les révolutions sont pas tranquilles depuis que Jeff est en Égypte.
Ah, non, c'est pas une place de révolution tranquille, non.
Non,
mais, c'est ça. Puis chacune des ressources, finalement, a un effet si elle arrive au fond ou au minimum. Fait qu'il faut la tenir dans le milieu. Puis il y a toute une histoire. Puis on meurt régulièrement. Là. Puis là, ils tiennent ton règne. Puis à toute fois qu'on meurt, on joue le roi suivant. Et l'histoire de notre roi précédent fait juste partie de notre histoire. Puis on continue sa legacy, son histoire, finalement. Puis fait qu'il y a des personnages que tu te rends compte qui t'ont trahi, fait qu'ils t'ont tué. Mais avec ton roi précédent, tu peux t'arranger pour t'en débarrasser. Puis l'envoyer dans un donjon, quelque chose comme
ah,
ça.
C'est drôle.
Pour vrai, un petit jeu qui vaut comme 3,99 je pense, sur mobile. Super le fun. Pour vrai, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je le conseille à tout le monde qui a du temps à perdre dans un train pour aller travailler. donc, Reigns sur iOS, PC et Android. Sinon, c'était pas mal ça.
Le 19 août dernier, des photos, des spécifications et une ébauche du manuel pour la nouvelle GoPro 5 ont fait surface en ligne. Donc, classez ceci sous la rubrique « rumeurs ». Mais, selon ces documents, la GoPro Hero 5 possède des fonctions qui seraient activées par la voix pour capturer les moments imprévus. Des commandes typiques s'y trouvent. GoPro Turn On pour l'allumer. GoPro Start Video pour débuter l'enregistrement. Et bien sûr, le classique « That was sick » qui indiquera les derniers moments comme importants ou je suppose sick. Dans le fond, je dirais que c'est bien de connaître son public cible. Hein? Puis pour le bien de YouTube et des compilations de files, j'espère juste qu'ils vont acheter une commande pour démarrer l'enregistrement quand quelqu'un déclare le classique « Dude, hold my beer ».
Ouais, c'est, la commande, c'est « slash bro ».
Et dans un exemple brillant de rigueur que je ne peux que saluer, un DM, un joueur qui guide la partie des autres à Donjons et Dragons, a fait un Mythbuster de lui-même pour répondre à la question d'un autre DM posée sur le site RPG Stack Exchange. La question était, en gros, est-ce que c'est possible, avec une seule main de disponible, sous l'eau, de déboucher une potion et de la boire sans perdre une quantité significative du liquide?
Ouais, je l'avais vu passer, j'ai pas regardé...
Ben, je vais pouvoir te le résumer.
Mais merci, parce que tu sais, j'ai une game qui s'en vient. Je vais pouvoir le savoir si ça se produit.
Eh bien, le rigoureux DM IRKE, c'est E-I-R-K-E, armé d'une bouteille de vin rouge, s'est attaqué à la situation dans son bain et en est venu à la conclusion que oui, c'est tout à fait possible et même trivial à faire. Si on présume que la potion est fermée par un bouchon de liège, on peut avoir la potion en main, tirer le bouchon avec ses dents, couvrir le goulot avec son pouce, mettre sa bouche sur le contenant, retirer son pouce et tirer de l'air dans ses poumons pour égaliser la pression. Il disait d'ailleurs que c'est, on pouvait simuler là, l'égalisation d'air, là, on peut le faire hors de l'eau là, pour comprendre ce qu'on essaie de faire quand on a quelque chose qui nous bloque, la bouche. Donc, si jamais vous vous posiez la question, ben voilà, aucun problème. À Divan Quest, on est là pour vous informer des choses vraiment importantes.
Ça me fait triper, ce genre d'affaire-là, sur Internet. Hey, c'est pas tu, ça? Puis tu sais, c'est souvent dans des trucs de fantasy comme ça ou dans des jeux de rôle parce que c'est là que tu essaies des affaires par rapport, là, mais j'aime ça.
Mais tu peux me rappeler son nom, Matt?
Comment?
Tu peux me rappeler son nom?
IRKE. E-I-R-K-E. D'ailleurs,
savez, avec des cas pour faire plus médiéval.
Ouais, c'est ça.
Puis le gars d'ailleurs a mentionné que avant d'avoir l'air d'un imbécile dans son bain avec sa bouteille de vin, là, c'était peut-être pas la première qui buvait, mettons. Fait que ça l'a peut-être un petit peu acclimaté à la situation.
On imagine. Hey, on joue encore dans les ordres des sujets. Hein. Ça me fait drôle de parler si tôt que ça dans un podcast.
Je pense qu'il y a juste nous autres que ça mêle.
C'est pas grave. On est des personnes d'habitude. Donc, ben oui, comme je l'ai dit tantôt, hein, j'ai presque fait un teaser, puis je me suis rappelé que c'était pas une bonne idée. Puis on m'a dit qu'on pouvait faire des teasers. Bref, Phoenix Wright. Donc, ben oui, à l'époque du Nintendo DS, hein, j'étais un jeune et pauvre étudiant universitaire qui trouvait des manières pas dispendieuses de faire vivre sa passion pour les jeux vidéo. Donc, j'ai eu à l'époque une flashcard, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cartouche de jeu qui permet de mettre des ROMs dans le fond dessus puis de jouer directement sur le vrai système à des jeux jeux desquels tu fais des backups légalement pour ne pas abîmer tes cartouches réelles. Ouais. C'est une mauvaise idée pour plusieurs raisons, je vous le dis tout de suite. En plus de la légalité douteuse de la patente, là.
En fait, elle n'est pas douteuse. Il n'y en a juste pas de légalité.
Non, comme je l'ai expliqué, c'était correct. Il existe une expression géniale pour expliquer ça cause quoi, ce genre de petite machine-là, Mathieu. Puis c'est toi qui me l'as apprise, ben, ou me l'as rappelé. Là. C'est l'effet du magasin de bonbons.
Ah, ça, c'est le pire maudit problème que tu peux avoir quand tu as une cassette flash.
Le Candy Store Effect. Mm-hmm. Tu sais, c'est trop, c'est comme pas assez. Là. Tous les jeux sont disponibles devant toi, puis tu peux jouer à tout.
T'sais, pour vous donner une idée, je suis passionné du Super Nintendo, bien sûr. Je m'étais acheté une Everdrive, qui est une cassette qui permet de faire le même principe que ça. Puis quand je vous ai parlé de Magical Poppin, vu là quelques épisodes, je venais de découvrir le jeu il y a 2 semaines et il était sur ma Everdrive depuis 1 an et demi.
Voilà.
Puis j'en avais aucune espèce d'idée.
Fait que c'est ça.
Ça me rappelle les planètes de No Man's Sky.
Donc, tu finis par jouer à plein d'affaires, mais c'est rare que tu joues plus que quelques minutes. Fait que j'avais à l'époque joué un peu à Phoenix Wright, hein, je l'avais dit tantôt, c'est quelque chose qui m'intéressait dans le concept, ça, pour quelques heures là, avant de découvrir un autre jeu de DS ou aller butiner. Hashtag poser son dard.
Hashtag être au cégep.
À l'université.
Université,
sure. Ouais, c'est ça, mais moi, à l'université, c'est ça, j'avais pas des one night stands avec des humains, j'avais avec des jeux.
Ah, oh, ça, c'est triste.
Ben non, mais j'avais une blonde à l'époque qui est la même que maintenant. Là, faut pas qu'elle le sache.
Ah oh, oui, parce qu'on le sait qu'elle nous écoute pas.
C'est vrai.
Ça fait d'elle une meilleure personne.
Ben, reste que c'est un jeu que j'avais apprécié à l'époque. Puis maintenant, ben, je voulais y rejouer. J'en avais parlé. Puis j'ai décidé de rejouer et de vous raconter ma redécouverte de Phoenix Wright. Phoenix Wright, voyons, on va s'apprendre à parler. Hein. Ace Attorney. Donc, Ace Attorney. Mm-hmm. C'est le premier jeu d'une assez longue série de jeux, de spin-off et même d'un crossover avec Professor Layton. Ça, faut que je regarde ça.
Ouais, ouais.
Prof Layton, là, qui est un jeu de puzzle, là, c'est comme, je veux voir. C'est peut-être pas bon, mais je vais l'essayer. Développé et publié par Capcom. Le jeu est sorti en 2001 au Japon sur Game Boy Advance. Puis il n'est pas ressorti ici avant 2005, quand il a été adapté pour la DS. Fait intéressant, au départ, il était même développé pour le Game Boy Color.
Hein?
Puis quand le directeur a quand le directeur a vu une démo, quelque chose comme ça, je pense, d'un jeu de Mega Man.
Zero, là.
Je sais plus, en tout cas, peu importe. Sure. Qui était dans les premiers démos là, qui sortaient. Il a vu ce que ça pouvait faire au niveau graphique, le Game Boy Advance, comparé au Game Boy Color, quand même. Ben, il a décidé que c'était là-dessus que ça allait se développer, que c'était une plateforme parfaite pour ce qu'il voulait faire.
Ah, j'imagine tellement la quantité de texte qu'il y a dans Phoenix Wright sur un écran de Game Boy Color. Là.
Ah, je pleure. Donc.
Pas de rétroéclairage.
J'ai des frissons d'horreur. Donc, on pourrait décrire le jeu comme un jeu d'aventure de style roman visuel, si on veut, qui est très, très centré, oui, sur l'histoire. On y incarne Phoenix Wright, un avocat de la défense qui débute dans la profession, qui se retrouve à devoir défendre son meilleur ami, qui est faussement accusé de meurtre. Le jeu va se dérouler en 5 affaires, là. C'est des cases, là. Je vais les appeler des affaires, je pense que c'est pas mal le terme qui fonctionne, où on retrouve un peu la même prémisse, puis le client est toujours faussement accusé d'un meurtre. Chaque fois, l'affaire commence par une genre de petite cinématique, dans le fond, qui va nous démontrer le meurtre de façon assez floue pour qu'on soit pas certain de qui était là et de quelle façon, mais on voit quand même une petite information, puis ça nous introduit, si on veut, à l'affaire. Le reste de l'affaire va se dérouler, dans le fond, dans deux types de jeux. Si on veut, tu as la partie d'investigation puis le procès comme tel. Les procès vont toujours dérouler sur 3 jours, puis on alterne d'un mode à l'autre là, à chaque journée. Fait qu'investigation-procès, investigation-procès... Dans la phase d'investigation, ben, on se promène dans le fond d'un endroit à l'autre. On peut aller visiter la scène de crime, on peut aller visiter les gens qui sont en prison, on peut aller voir différents endroits. Puis chaque endroit qu'on visite, ben, c'est un background statique. Ou des fois, il y a des personnages qui se retrouvent en avant-plan. Puis on peut examiner le background à ce moment-là pour trouver des indices, parler avec les gens qui sont là, leur présenter des éléments de preuve pour essayer de provoquer des réactions. Puis moi, j'ai joué sur la version 3DS, puis cet élément-là d'avoir un background avec quelqu'un en avant a été quand même adapté avec le truc 3D du 3DS, puis mm-hmm. ça c'est assez bien, tu sais, vu que c'est le principe du 3D du 3DS, mais ça se fait assez bien dans le jeu-là, puis ça n'a pas une grosse déconnexion, puis ça met un petit effet de profondeur qui est quand même le fun. La phase d'investigation reste, à mon avis, peut-être la partie la moins amusante du jeu-là. C'est pas que c'est pas le fun, c'est juste que des fois, c'est un peu chiant. Tu sais, en général, tu te promènes d'une place à l'autre, puis ça avance, tu trouves des indices, tu parles à du monde. Puis le jeu est quand même assez linéaire, là. Tu sais, tu fais pas... S'il y a un petit truc que t'as pas fait... Ben, ça te bloque et tu peux plus avancer. Je me rappelle un truc dans la dernière affaire où je me suis promené partout. J'étais allé revisiter toutes les places. Il y avait quasiment personne à qui parler. Les personnes qui étaient là, je leur avais tout montré, je leur avais tout dit pour me rendre compte finalement que. Puis là, spoiler, maintenant, c'est quoi. Il y a un dude à qui j'avais pas pensé de montrer mon badge d'avocat. Puis c'est ça qui débloquait la suite des choses. Tu sais, mais parce que c'est ça.
Ouais, ça. La pertinence est questionnable, puis ça t'empêche complètement de faire quoi que
ce soit. Ben voilà, mais tu sais, ça arrive pas fréquemment. Puis fait que souvent, c'est vraiment plus tu te promènes, tu ramasses des indices, puis là, tu vois des choses, tu vois des quelque chose qui va te servir plus tard. Là.
Mais c'est typique des jeux d'aventure.
Ben oui, là.
Puis c'est le côté jeu d'aventure traditionnel qu'il y a dans Phoenix Wright.
Oui, l'élément, c'est que se déplacer, c'est pas super évident tout le temps dans Phoenix Wright. Mm-hmm. Imaginez un genre de flowchart, si on veut, là, de flowchart, là.
un organigramme.
Ah, merci, un organigramme. Où on peut aller d'un endroit à l'autre, mais pas nécessairement partout. Tu sais, dépendant de où est-ce que t'es, t'as certaines options, puis des fois, il faut que tu passes par 3, 4, 5, 6 écrans pour passer d'un endroit à l'autre, parce que là, t'es rendu comme sur le bord de l'eau dans un parc. Fait que pour revenir, il faut que tu reviennes au milieu du parc pour aller à la sortie du parc, pour revenir aller de... Tu sais, puis... Mm-hmm. Tu sais, c'est... pas game-breaking, là, puis ça se fait très rapidement sur la version 3DS, en tout cas. Mais des fois, c'est un peu comme... Oh, surtout quand tu cherches partout, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu montres le badge au dude, là. C'est ça. Fait que c'est comme les petits éléments qui font que la phase d'investigation est peut-être pas la plus tripante du jeu, mais en même temps, ça te donne les indices que tu sais, ah, ça, je vais m'en servir en cours, c'est clair, ça te revient en face, là, tu sais. Puis après ça, t'arrives à la phase de procès. Où est-ce que l'idée, c'est principalement de trouver des contradictions dans les témoignages des témoins qui sont là et qui sont présentés. On peut demander des précisions à quelque chose qu'on est en train de parler. On va présenter des preuves qui vont montrer que c'est une contradiction avec quelque chose qui a déjà été dit ou qui a été présenté avant. Puis c'est dans cette partie-là qu'on peut vraiment avoir comme des beaux échanges. Puis les personnages qui ont beau être relativement statiques, là, c'est une suite d'images qui peuvent être déplacées, mais réagissent quand même. Puis quand tu pousses... sur quelque chose, tu sais, tu demandes une précision sur un élément qui semble une contradiction. Des fois, ils se mettent à être stressés, puis tu vois, là, comme ils sont tout croches, puis là, il y a des réactions abusives, style animé japonais, tu sais. Mais c'est très drôle de dire, t'es-tu sûr qu'il y avait deux personnes? Puis là, il se met à suer, puis,
Ouais, ben, une des beautés, justement, de ce jeu-là, c'est que forcément, c'est un peu comme quand je parlais des pompiers, là. Genre, le concept lui-même est forcément un peu dol. Fait que faisons-en. Le jeu le plus dynamique possible.
Vraiment. Surtout avec, tu sais, on pense que ça a été développé au Game Boy Advance, donc tu peux pas avoir des personnages en full animation 3D, là. Mm-hmm. Fait qu'une coupe d'images que tu peux interchanger avec une quelques petites animations, c'était dans
des,
le top.
Des
là.
Effets sonores qui super saisissants. Pis...
Oh oui, puis impressionnant, j'y reviens un petit peu après. dans la partie de procès, c'est là qu'on peut, puis mettons des guillemets, perdre dans le jeu. Si on présente la mauvaise preuve au mauvais moment où on tire des conclusions qui sont erronées en faisant des liens qui n'ont pas rapport, on peut perdre une vie, entre guillemets, là, qui est un point d'exclamation, puis c'est le juge qui dit « D'où tu t'en vas avec ça, t'as pas rapport. » Puis si tu perds tous tes points d'exclamation, ben le juge décide que ton client est coupable, puis tu retournes au dernier save. Mettons que vous êtes comme pas sûr d'un bout, puis que vous décidez d'essayer des choses, savez juste avant d'essayer de montrer n'importe quoi, n'importe qui. Contrairement à la phase d'investigation, où est-ce que tu peux montrer n'importe quel objet à tout le monde, puis ils vont juste dire « Je sais pas quoi dire là-dessus. » Au procès, niaise pas, man. C'est sérieux, c'est un procès.
Dans le système juridique le plus fucked up jamais conçu.
Oui, quand même un peu. Donc, c'est là vraiment là, que le gros fun se trouve. Puis l'investigation, c'est comme clique partout, parle à tout le monde. Puis le procès, c'est sois attentif. Rappelle-toi des éléments de preuve. Puis t'as la musique qui donne quand même le feel d'un jeu quasiment de combat rendu à ce moment-là. C'est vraiment une espèce d'escrime intellectuelle entre toi puis le procureur. Puis la musique donne un bon feel. Je vous en fais entendre un extrait de ce bout-là. Ça me fait regretter tous les moments où j'ai joué d'entente pendant que ma blonde essayait de dormir à côté, puis là, j'étais obligé de mettre le son à off. Là.
Ben, je peux dire que j'ai déjà été membre d'un jury en cours, puis c'est la même musique qui jouait cette année.
Ah, malade! Mais c'est clair qu'on m'appelle à être dans un jury, un moment donné, je mets mes écouteurs, puis.
J'écoute rien.
Ouais, un écouteur, mais voyons, là. J'emprunte, tu sais, je fais comme si j'avais besoin d'un appareil auditif.
Puis... tu le bloques dans ton DS.
Oui, c'est mon DS qui est un appareil auditif. C'est dans cette partie-là aussi du jeu qu'on retrouve les répliques les plus célèbres, les célèbres, oui, de Wright, qu'on retrouve les célèbres... ou quand tu veux pousser pour plus d'informations, ou plus particulièrement...
Objection! Ah,
que je vais garder sur le podcast quand Jeff dit quelque chose que je suis pas sûr.
Comment?
Mais c'est pas parce que t'es loin qu'on va arrêter de niaiser. Fait cocasse, quand le jeu a été développé au Game Boy Advance, l'utilisation de voice actors n'était vraiment pas répandue pour cette époque-là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait enregistrer aux membres de l'équipe de développement les différentes voix, dans le fond, les différentes répliques des différents acteurs qui avaient besoin des différents personnages, parce qu'il n'y en a pas comme des millions, là, c'est quelques répliques de ce genre-là pour les différents avocats et différents procureurs, puis il n'y en a pas 36. Mm-hmm. Là. Fait qu'ils ont fait puis ils ont choisi ceux qui étaient les plus intéressants.
Et pour la version américaine?
Je pense que c'est l'équipe de localisation qui a fait
ça. C'est Ben Judd, qui était le chef de la localisation, finalement, voilà. Qui s'est improvisé la voix de Phoenix Wright.
Mais qui s'est improvisé la voix de Phoenix Wright sur la version japonaise?
Oh.
C'est le directeur, Shu Takumi, directement, qui a eu cet honneur-là.
Puis, en fait, je vais toujours me rappeler du nom de Ben Judd, parce que grâce à sa proximité avec l'équipe de Capcom, pendant la localisation de Phoenix Wright, c'est ce qui lui a permis après ça de faire un plaidoyer pour ramener la série Bionic Commando.
Mettons quand il a fait son plaidoyer, là, quand il a commencé, il a été parti par ça.
Ah oui, il le disait justement dans un article. Il a fait son plaidoyer pour ramener Bionic Commando. Malgré que ça a été un échec, ça nous a amené Bionic Commando Rearmed, qui est probablement le meilleur remake d'un jeu vidéo ever. Fait que merci à Monsieur Judd, ce rouquin à la voix tonitruante.
Oui.
Hein, disons-le.
Qui va de sortir des... Bon, donc oui, fait qu'on alterne, comme je disais tantôt, entre l'investigation puis le procès trois fois par affaire avant de gagner ou puis de passer à la suivante. Le gameplay a beau être similaire, tu sais, ça reste le même principe pour les trois affaires, c'est ce qui se passe est assez diversifié entre les trois affaires pour que le jeu ne devienne pas plate. Les preuves sont différentes, les façons de les trouver vont varier aussi. Donc, ça nous donne, ça donne quand même quelque chose d'assez... Les endroits sont plutôt différents, même s'il y en a qui se recoupent un peu. Fait que c'est assez diversifié pour pas qu'on fasse comme... OK, c'est même maudite niaiserie, puis ça se répète, puis on abandonne parce qu'on est tanné. Donc, j'ai fait, moi, les trois premières affaires. Là. Je parle tout le temps de trois affaires depuis tantôt. C'est les trois que j'ai faites. Il y en a quatre sur la version DS. Les trois premières, c'est la version originale au Game Boy Advance. Donc, on a la première affaire où est-ce que notre ami Larry Butts est accusé de meurtre, du meurtre de sa blonde. Avec la superbe phrase qui revient une couple de fois dans le jeu, là, When something smells, it's usually the butt.
Quand tu nommes un personnage juste pour faire un gag douteux. Là.
Mais tous les personnages étaient comme ça, ouais. Autant la version japonaise que la version américaine. Ben, elle n'est pas nécessairement tous, mais bon, t'sais, Phoenix Wright, on le voit tout de suite. Fait que c'est, tout ça, c'est souvent ça, mais cette phrase-là, je la trouve quand même très drôle. Donc, après ça, la deuxième affaire, Phoenix est accusé lui-même du meurtre de sa patronne Mia. Finalement, le procureur contre qui tu te bats les deux premières fois, Miles Edgeworth, est accusé du meurtre d'un avocat de la défense après. Puis, c'est les trois premières affaires. Moi, j'ai décidé de jouer à ces trois-là, puis après ça, bon, à un moment donné, c'est pas que je voulais pas continuer, mais c'était que la vie arrivait, puis le podcast aussi. J'ai décidé, dans le fond, de jouer aux affaires, qui était le jeu original. Mais la quatrième a été rajoutée par la suite. Tu sais, même si les affaires sont séparées, mais ils se recoupent quand même au niveau de la narrative. Puis moi, je pensais au départ que c'était juste une série d'affaires. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai pas continué quand j'ai joué un peu à l'époque. J'ai peut-être fait la première affaire, genre, c'est cool, tu sais. Mais non, les trois affaires se suivent. C'est vraiment une narrative. L'histoire se continue, l'histoire avance. Puis c'est vraiment, je pense, ce qui rend le jeu le plus... C'est ce qui, le côté addictif du jeu.
C'est carrément les trois actes d'une histoire.
Ben voilà. Donc, c'est ça qui te donne le goût de continuer, tu vois où est-ce que ça s'en va. Puis la prochaine affaire, voyons, Miles, qui est le gars contre qui tu te bats, coudon, il a tué quelqu'un, mais c'est sûr que tu sais qu'il l'a pas tué parce que le but c'est de le défendre, tu sais. Mais, voyons, coudon, c'est quoi cette histoire-là? Puis, comme on l'a dit tantôt, la version japonaise au niveau de la narrative rajoute encore plus de jeux de mots, je pense, que la version américanisée, parce qu'ils ont beau avoir essayé très fort de garder des jeux de mots, puis tout ça, puis d'en adapter, puis d'en créer des nouveaux, à un moment donné, ça se. Tu sais, je pense que l'équipe.
C'est un effort de localisation exceptionnel.
Ben, c'est ce que je disais. Là. Je pense que l'équipe a fait son gros possible, puis même c'est démené pour le rendre le plus fidèle à l'original, si c'était pas directement dans le texte, au moins dans l'idée qu'il y avait en arrière.
Parce que ce jeu-là vit évidemment sa qualité de son texte. Ben, c'est voilà. Juste ça.
Fait que même sans cet abus-là de jeu de mots là, que de la version japonaise, ben, il reste que tu veux savoir ce qui se passe, puis tu as un petit sourire en coin parce qu'il y a une niaiserie qui se dit, qui se produit. Puis tu veux voir ce qui se passe après. Dans le fond, la quatrième affaire qui a été rajoutée, en fait un lien même entre le jeu puis le deuxième volet de la série. Fait qu'ils l'ont comme rajouté, mais ils l'ont inséré quand même dans la narrative pour que ça soit pas quelque chose de complètement décousu.
Puis spécifiquement aussi, je sais que tu l'as pas fait le quatrième cas, là, mais en étant exclusif à la version DS, ils ont introduit des fonctionnalités uniques à la DS qui ne pouvaient pas faire sa version Game Boy.
Ouais, ben c'est ça, qui ont après ça, là, qui se répètent dans les autres versions qui suivent ensuite. Niveau réalisme, ben, on comprend, il ne faut pas s'attendre à une simulation de procès. Je suis pas un avocat, je dirais pas ça. J'ai quand même fait quelques cours universitaires où est-ce qu'il y avait des notions de droit qui étaient là. Puis au début, je me mordais un peu la langue. Je me suis bien niaiseux cette histoire-là. Puis là, à un moment donné, tu comprends que le jeu n'essaye pas d'être quelque chose de réaliste. C'est rapide, là, ça prend une coupe. Ok, tu fais, ok, ils veulent pas être réalistes. Puis là, tu te mets à apprécier ce côté-là. Tu comprends que c'est pas une simulation quand. Soit des affaires ridicules comme des témoins qui disent pas tout parce que leur boss leur a dit de pas en parler. Dans la réalité, tu te mets dans la marde pour ton boss à ce point-là, t'es un peu épais. Des avocats de la défense ou des procureurs qui sortent des preuves de leur poche pendant le procès, tu sais. Pas une preuve surprise, juste comme surprise, c'est « j'avais dans mes poches ».
Je sais que la phase pendant laquelle ils présentent les preuves en anglais, ça s'appelle, je parle légalement, là, pas dans le jeu, ça s'appelle « The Discovery ».
Ouais.
Ils ont emmené ça à un autre niveau.
Ouais. Ils l'ont poussé un peu. Puis, tu sais, dans le fond, ce ridicule-là te dérange pas. Puis vers la fin du jeu, t'as comme la culmination du ridicule. Ben, la fin du jeu, dans les trois aventures, là, quand t'interroges un fucking perroquet... Puis que son témoignage, c'est le point culminant de l'affaire qui fait que le personnage est déclaré non coupable.
Maudit que c'est bon, c'est un jeu.
Je vais appeler au stand Polly le perroquet. Puis OK.
C'est ça.
J'aimerais ça voir un avocat faire ça dans la vraie vie, voir à quel point rapidement il se ferait interner. T'sais.
Mais une des choses qui aide beaucoup comme à transporter le ridicule, c'est à quel point le juge est sénile.
Ah oui!
Il est complètement sénile. Genre, tu dis de quoi, puis il est comme... Ah ouais? Ah ok. Genre,
ah oui, il mange dans la main des procureurs à côté. Ah, c'est...
Il y a vraiment une face ébahie constamment.
Il y a une des témoins de la première affaire, je pense, qui est une fille, une petite fille beaucoup trop Ben, c'est ça, avec la craque de sein proéminente, puis elle y fait des becs, puis là, tu vois qu'il est complètement omnubilé par la... Puis quand je parlais tantôt des animations, c'est une des premières fois qui est intense. En elle, quand tu commences à la coincer, elle a une genre de petite broche en forme de cœur sur sa craque, finalement, qui spin. Puis écoute, c'est ridicule. Les seins, ils bounce. Ils ont amené cet aspect-là.
Ça reste un jeu japonais. Là.
Voilà.
Mais donc, je veux juste dire que j'ai déjà été membre du jury, puis c'était pareil.
Reste que c'est quand même satisfaisant de chercher puis trouver les contradictions dans les témoignages. Là. Même si des fois, c'est un peu frustrant dans la manière de les présenter. Genre, le témoin a une phrase qui se fait sur deux écrans, puis t'as une contradiction, puis là, t'as présente sur la première partie, mais elle était sur la deuxième partie de la phrase, le détail de la contradiction. Fait que là, le juge, j'étais comme, c'est quoi votre lien, ça n'a pas rapport? Ah, t'es cave, là. Mais bon, tu sais, c'est correct qu'on comprend, c'est une limite au gameplay du jeu. C'est à toi d'être plus attentif. Voilà. Donc, le jeu a été très bien reçu du côté des critiques. En général, que de bons mots pour le jeu, pour le côté nouveau, la narrative intéressante. Le fait aussi, puis c'est ce qu'ils voulaient, qu'ils ont un jeu qui est vraiment jouable par tout le monde. Là. Le directeur a dit, moi, je veux que ma mère puisse jouer au jeu. Puis je pense que c'est quelque chose qui est possible pour vrai. Quelqu'un qui n'est pas un gros fan de jeu peut facilement jouer à ce jeu-là. Le public aussi a beaucoup aimé. Comme on peut le voir dans le nombre impressionnant de suites puis de spin-offs, là. Il y a eu un film,
oui.
Un manga, oui. Une série animée qui est récente.
Non.
Puis j'ai pas regardé exactement sur quoi ça portait, mais je vous dis que si ma curiosité survit là, jusqu'au prochain podcast, je vais essayer d'y jeter un coup d'œil puis je vous en glisserai un petit mot là, dans le...
On en avait discuté un peu, mais je te suggère le film.
Ouais.
Parce que le film, je sais pas si t'en parlais.
Non.
Bon, le film raconte les événements du premier jeu. Donc, ce que tu viens de jouer, les trois premiers cas, c'est on s'entend, c'est en dedans de 2 heures, fait qu'on coupe dans le gras, là. Mais le film... comprend à quel point il est ridicule d'adapter quelque chose d'aussi farfelu. Puis il va plus loin en créant une salle de cours qui est futuriste pour être plus visuelle. Fait que les preuves apparaissent sur des écrans holographiques, puis les avocats peuvent les lancer. C'est complètement ridicule, juste pour avoir un stimuli visuel à ce qui est très, très peu visuel.
Voilà. Mais tu sais, je l'ai pas regardé parce que j'attendais d'avoir fini l'histoire, là, mais ça. Oui, c'est sûr que je vais le regarder. Sérieusement, je suis vraiment content d'avoir eu envie de redécouvrir Phoenix Wright. Là. C'est sûr qu'éventuellement, je vais continuer ma trilogie puis je vais peut-être continuer dans les autres, là, dépendant d'à quel point j'ai le goût de jouer au même style de jeu. À un moment donné, c'est le fun d'alterner. Puis j'ai hâte de voir comment ils utilisent les possibilités du DS là, parce que je sais qu'ils vont s'en servir, mais tu sais, ça va être un petit peu plus, un petit peu différent. Je finis ça sur un autre extrait de la soundtrack juste pour voir un peu à quel point il est diversifié. Puis à quel point ça change pour appuyer l'atmosphère. C'est peut-être un des seuls bémols que j'ai sur la version remasterisée de 3DS. Ça aurait été quand même cool qu'ils fassent une version de la soundtrack un petit peu plus améliorée parce que, tu sais, elle date, là, tu sais, ça sonne un peu vieux, mais en même temps, ça reste vraiment, vraiment awesome quand même. Donc, je vais donner à Phoenix Wright, Ace Attorney, un... 3 pattes de divan en forme de maillet de juge. OK, d'abord, 4 pattes de divan parce que ça le mérite vraiment beaucoup.
Réflexion. Sur la semaine. Donc, le hype... À ne pas confondre avec Hype de Time Quest, un jeu de Playmobil pour PS2 et Game Boy Color qui a généré probablement très peu d'excitation en 1999.
Je me rappelle quand même en avoir beaucoup entendu parler à l'époque. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il en parlait genre à Monsieur Net. Genre, quelque chose de
ça. Tu regardes à cause de ta collection de Playmobil à l'époque?
Non. Ouais. Mais c'était développé par Ubisoft, fait qu'il y a probablement quelque chose de local dans tout ça. Là.
Donc, la semaine dernière, on parlait de No Man's Sky et puis des attentes qui étaient créées par leur campagne de marketing, en fait. Donc, pendant 2 ans, Hello Games a laissé filer des bribes d'informations puis générer un momentum énorme autour de la sortie de leur jeu. Puis, si le hype était bien réel, mais le jeu, lui, il l'était pas. Le problème avec le hype, c'est qu'il n'est pas toujours mérité, puis il nous pousse parfois à prendre des décisions qu'on pourrait regretter. Tu sais, c'est un petit peu comme le film 3X qui joue dans votre tête, qui met en vedette vous puis la fille super hot que vous venez de rencontrer. L'anticipation est réelle, l'énergie est palpable, puis il y en a même qui vont parfois jusqu'à payer le gros prix pour vivre l'expérience plus rapidement.
Mon Dieu. T'es seul en Égypte? Hein? Tu comprends?
Ne jamais écrire une réflexion avec le sac plein. Continue.
Donc, on continue. Hein? dans l'industrie du jeu vidéo, les producteurs sont passés maîtres dans l'art d'attirer l'attention du marché puis de provoquer une espèce d'orgasme collectif qui semble prendre d'assaut les gamers à travers le monde chaque fois qu'un teaser de une minute est mystérieusement leaké sur Internet. On vit dans une ère où les campagnes publicitaires sont omniprésentes puis cherchent à nous garder, nous puis nos portefeuilles, dans un nirvana d'anticipation perpétuelle.
Ben voyons. Après trois fois, j'avais plus le choix.
Ben, il y a un thème. Mais chaque année, les développeurs ils font la file dans les nombreuses conventions, fait que le E3, GDC, Gamescom, PAX, etc. Puis chaque année, on retombe dans le panneau, puis on recharge nos réserves d'adrénaline. À notre insu, le hype est devenu une drogue, puis notre prochain fixe, il vient jamais assez vite. Malheureusement, comme avec la drogue, l'histoire se termine souvent mal. On se souvient tous de Watch Dogs, puis comment le jeu était censé redéfinir le gaming moderne. Pour finalement n'être pas grand-chose de plus qu'un pâle prétendant au trône de GTA. Ou encore Destiny, qui promettait une expérience multijoueur dans un univers énorme, persistant, dont le budget de développement y a outrepassé tout ce qui était fait avant, puis qui a été livré avec un contenu limité, répétitif, puis du voice acting de bas niveau qui était digne d'un théâtre de 40 jours.
Ouais, mais ils sortent des méga blocs, ça doit pas être pire.
Quoi, il y a des méga blocs de Destiny?
Ah, j'ai vu passer une photo sur Twitter. Là.
Nice, j'en veux.
On parle du hype ici, Matt. Ah.
C'est exactement ça.
Je t'ai hypé pour le Megablock.
Regarde s'il n'y a pas une tablette qui reste.
Je peux sûrement fitter un quelque part aussi. Ben, l'absence de Jeff, je peux y mettre à sa place.
C'est bon.
Oui, Jeff!
Donc, naturellement...
Rapidement.
Hein, on pointe... Ouais, rapidement. Naturellement, on pointe du doigt les développeurs. Hein. On partage à grands coups de commentaires sur les réseaux sociaux notre dédain pour les Day One Patch, puis on exprime sans gêne notre colère quand un jeu se voit soudainement greffer un système de microtransactions. Mais nos réactions sont valides, parce qu'on vit une époque de récession économique, puis les gamers ont de moins en moins de revenus à investir dans leur hobby, alors que l'industrie, elle semble chercher désespérément des nouvelles astuces pour piger au maximum dans leur poche. Mais... est-ce qu'on peut réellement blâmer une entreprise et ses actionnaires de chercher à maximiser leurs profits? Parce que dans le fond, une société capitaliste comme la nôtre ne peut pas fonctionner en fait sans un principe de base qui est très très simple. Le consommateur doit acheter. Puis c'est ici qu'on fait erreur en devenant les principaux responsables de la création du monstre qui est un petit peu devenu le marché du jeu vidéo en 2016. Parce que malgré nos messages de colère, nos menaces de ne pas acheter les prochains jeux d'une franchise, notre promesse de jamais se laisser avoir par les microtransactions, on a voté avec notre portefeuille puis on a encouragé cette économie-là. Les développeurs de Clash of Clans, de Candy Crush, ils feraient pas autant de profit si personne n'achetait d'items supplémentaires dans leur boutique en ligne. Les développeurs n'hésiteraient pas à repousser la sortie d'un jeu pour corriger les derniers bugs au lieu de forcer les gamers à télécharger une patch dès le lancement. Puis... ça arriverait pas si les joueurs menaçaient pas de boycotter une franchise dès que le développeur annonçait un retard.
Ouais, c'est ça.
Les jeux seraient probablement de meilleure qualité aussi si les joueurs cessaient d'acheter les éditions limitées en précommande.
Ouais, mais...
Exactement. Mais je comprends, parce que des fois, c'est difficile de passer à côté de la chance d'avoir son propre Pip-Boy hein, ou un magnifique Galahorn pour le show-off à Destiny. Dans le fond, le hype, c'est un peu comme le côté obscur de la force. Hein. Il est facile, il est plaisant, puis il paraît qu'il y a même des biscuits.
Ouais, c'est
sweet!
Bacon aussi, parce que s'il y a du bacon, oubliez-moi.
Je peux te précommander des biscuits.
Oui, il n'y arrive pas cuit.
En passant, là, pour ceux qui nous écoutent, je ne précommande jamais rien, OK? À part des biscuits.
mais tu sais, j'ai justement ceux qui nos auditeurs à cœur. Fait que j'ai fait quelques recherches pour essayer de découvrir les pièges à éviter quand on est exposé aux nouveautés du gaming. Fait que j'ai dressé une petite liste de petits trucs pour s'éviter un bad trip, finalement. Donc, si un jeu a été annoncé il y a plus d'un an puis que les développeurs présentent encore juste des démos préenregistrées, ben le démo est probablement pas aussi bien rodé que ce qu'on laisse entendre. Si le lancement d'un jeu est repoussé en janvier ou février, donc après le boom du temps des fêtes, ben les producteurs ne s'attendaient probablement pas à ce que le jeu vende super bien. Si le jeu il présente plus de concept art que de screenshots du actuel gameplay, courez. Pas vers le magasin, là, courez vers d'autres jeux.
J'ai l'impression d'entendre un preacher puis il manque juste un « give me an amen ».
Ou un objection.
Ou « give me an amen ». Ah,
calice!
Mais ce serait dans le thème, hein? Si le développeur impose un embargo sur les reviews qui va jusqu'à la date du lancement du jeu, donc une interdiction pour les journalistes de publier leur review avant le lancement, mais ils n'ont probablement pas vraiment confiance en leur produit puis le jeu est probablement pas prêt. Puis dernièrement, achetez pas les jeux en pre-order. si vous achetez un jeu avant sa sortie, puis avant la disponibilité des reviews, c'est littéralement un pari que vous faites sur un jeu qui n'est pas terminé, puis qu'il n'y a personne d'autre à part les développeurs qui ont pu l'expérimenter. C'est littéralement un aller simple pour la déception puis la frustration. Fait si, comme moi, vous êtes un peu tanné des jeux qui ne vivent pas à la hauteur de leurs promesses ou vous êtes tanné d'être pris pour acquis par les développeurs, ben s'il vous plaît, replacez votre hype dans vos culottes puis réfléchissez avec votre portefeuille avant que notre proverbial divan brun soit remplacé par un divan d'examen médical Quest pour soigner votre dépendance au hype.
Quand tu parlais d'insérer notre hype dans nos culottes, là, tu parlais du petit bonhomme de Playmobil.
Juste ton petit bonhomme de Playmobil.
Dan, rapidement.
Oui, 5 septembre. Donc, je commence en 1791 avec la rédaction par Olympe de Gouges de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une espèce de réponse ironique, dans le fond, et critique à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui énonçait tous les droits que les hommes étaient les seuls à avoir en France à l'époque, les droits de vote, droits de propriété, droit de choisir son métier, finalement, aussi. Donc, ouais, c'est ça. Madame de Gouges, ben moi, je vous lève mon chapeau. J'avance en 1972. Triste date sur laquelle je ne ferai pas de gag, en fait. C'est une prise d'otage des Jeux olympiques de Munich. Des membres de l'équipe olympique d'Israël ont été pris en otage par les membres d'une organisation terroriste, oui, palestinienne. 11 membres de l'équipe, un policier, ont été tués. Tu sais, je ne suis pas fan des Jeux olympiques, là. Je trouve quelque chose de weird et de malsain à ces compétitions-là, mais reste, ça devrait être un endroit quand même sécuritaire pour les athlètes qui y participent quand même.
Ça serait le fun.
Quand même. 1977, lancement par la NASA de Voyager 1, qui avait pour but l'étude des confins du système solaire. La sonde est passée proche de Jupiter, de Saturne puis de Titan, là, une des grosses lunes de Saturne. Puis elle est maintenant sortie de l'héliosphère. L'héliosphère, c'est la zone d'influence, si on veut, dans l'espace qui est délimitée par l'influence du Soleil. Donc, est venue la première construction humaine, oui, à sortir de l'espace de l'héliosphère puis de pouvoir étudier l'espace interstellaire, donc l'espace qui n'est pas affecté par une étoile. Voilà, Voyager 1.
Ouais, elle va aussi être découverte, pareil, là, éventuellement par James T. Kirk et l'équipage de l'Enterprise, là, après une longue épopée.
Nice!
C'est legit au bout.
C'est clair.
C'est juste parce que nous, on est... C'est juste StarCraft. Star Trek 1.
Mais c'est correct parce que Ralph Garman, il y a un ou deux épisodes de Hollywood Babylon, se trompait et arrêtait pas de dire Star Trek au lieu de Star Wars. Puis tu sais, on s'entend que le gars, il connaît son Star Shit. Là.
Mais... son Star Shit!
Yep. Fait que c'est correct, StarCraft au lieu de Star Trek. Yeah. Mm-hmm. Good enough.
C'est à propos.
C'est du Star Shit.
C'est du Star Shit. 1987, inauguration de l'Homo Monument à Amsterdam, là, qui a la forme de trois triangles en granit rose, puis qui commémore, dans le fond, tous les homosexuels, hommes et femmes, là, qui ont été victimes de persécutions à cause de leur orientation sexuelle. À ne pas confondre avec l'Homa Monument, un monument en forme de char en feu là, qui commémore le combat contre l'embourgeoisement dans certains quartiers de Montréal.
À toutes les fois que tu prennes une affaire historique vraiment comme sérieuse, genre, je suis comme, ah, celle-là, il fera pas de gag parce que c'est sérieux. Mais il nous drop le fucking Homa Monument. Calice.
Mais c'est avec beaucoup de respect que je le fais.
Pas pour Homa, là.
Non. 1995, sorti au PS1 de Street Fighter The Movie. Hein, un jeu mauvais, basé sur un film mauvais, basé sur une série de bons jeux. Et quelle merveilleuse idée.
C'est Street Fighter The Movie The Game.
Ouais, Street Fighter The Movie The Game. Même journée, hein, pour se racheter un peu, sorti au PS1 de NBA Jam Tournament Edition.
Yes.
C'est pas mal un meilleur choix, en fait, que l'autre. 2007, lancement du Apple iPod Touch. Hein, maintenant, tous les fans d'Apple pourront sonner comme des pervers en disant « Touche! » 2012.
Ça se ramasse sur le soundboard.
2012. Le seul et unique selfie qui mérite d'être publié est pris par l'astronaute Akihiko Oshide alors qu'il est en sortie dans l'espace.
Quand même.
Pour lui, on l'accorde.
Happy birthday to you.
Donc, naissance le 5 septembre en 1187 de Louis VIII, roi de France. En 1638, naissance de Louis XIV, roi de France. Donc, si on suit la tendance, là, il devrait naître le 5 septembre à tous les 451 un Louis qui va devenir roi de France. Donc, en 2089, devrait naître Louis XX, puis gloire au roi Louis XX.
Le roi des ondes, ça?
Non, ça, c'est 19.
Ah, excusez.
Mon Dieu, Louis XIX. Quel mauvais film. En même temps, quel film drôle quand tu penses qu'il fait une critique sur les reality shows avant qu'il y en ait.
Exact. Il a prédit les reality shows, puis il a prédit le problème. Parce que le problème, t'es évident, on s'entend. Là,
mais... Oui, mais le prédire, c'est quand même
Attention, est-ce qu'il les a prédits ou inspirés?
Est-ce que Big Brother existait en Angleterre à ce moment-là?
Je sais pas. C'est une bonne question à rechercher.
À suivre ou pas.
Ou peut-être. Qui sait? J'avance dans l'histoire. En 1795, naissance d'Étienne Pascal Taché. Je sais pas quelqu'un qui peut me dire qui est M. Taché.
Aucune idée.
Il deviendra le 8e premier ministre du Canada de 1855 à 1857 et de 1864, à 1865. Les gars, je suis un peu déçu.
Ça a l'air d'un beau pays, le Canada. Il faudrait que j'aille visiter un jour.
Ben, je suis allé cet été. J'ai fait du game chasing dans des pawn shops bizarres.
Ah oui, c'est vrai.
1847, le fameux hors-la-loi américain Jesse James est né. Un sudiste convaincu. Je fais un petit topo parce qu'on dirait qu'on le connaît pas.
Ben, c'est pas lui qui modifie des chars, là?
Ouais. C'est aussi un sudiste convaincu, ça fit. Trop jeune pour joindre l'armée, dans le fond, pendant la guerre de sécession, il rejoint un groupe qui utilise des techniques de guérilla. Après la guerre, sa famille est expulsée du Missouri puis s'endette beaucoup auprès des banques pour payer leurs fermes qui ont été obligées de s'acheter en étant expulsées. C'est cette rancœur-là envers les banques qui va le pousser à faire des vols de banque puis éventuellement des vols de train de diligence. Il y a même plusieurs qui vont dire que c'est des bandits qui nuisent à l'image de l'Ouest et du développement de l'Ouest, mais il y en a quand même certains aux États-Unis qui iront dire que ce sont des victimes de la guerre. Donc, on voit que cet esprit-là, là, américain, est vieux. Voilà. Éditorial. 1946, naissance du très coloré chanteur de ce groupe légendaire. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Et si vous êtes toutes déçues que c'est ma voix qui a suivi ça et pas le reste de la toune, vous êtes pas tout seul. Et voilà. Mais quand même, on peut être poursuivi. Donc, oui, la naissance de M. Freddie Mercury.
Il a juste manqué de se mettre à chanter, les trois.
Ouais, mais tu sais.
Via Skype, là, je suis pas sûr que ça va bien marcher.
Mais c'est clair qu'il y a quelqu'un quelque part qui écoute le podcast qui a chanté. Je peux pas croire que ça s'est pas produit.
Ou qui a arrêté le pod immédiatement
pour aller écouter. Je l'ai fait quand j'ai été clippé.
On vous juge.
On
ne
pourrait pas vous en vouloir. Là,
c'est ça. On vous salue.
Donc, j'y vais avec le prénom du jour. Bertin.
Bon, oui. Blade of Steel. Fait qu'après avoir joué à Strife pour vous préparer ma chronique de la semaine passée, je me suis dit, ouais, peut-être que si je veux parler de ce qui nous a amené vers Deus Ex, il y a peut-être un historique plus direct qu'un jeu que PC Gamer a dit qui était genre Deus Ex avant d'être Deus Ex. Fait que je vais vous faire un historique un peu plus complet. On va survoler vite parce qu'évidemment, ça pourrait être excessivement long. Puis je suis pas en train de faire un segment de Shadowrun, donc on va se calmer un petit peu.
Hey, les gars!
Elles sont là, eux autres. Hein? Salut, Jeff. Okay. J'amorce. Jusqu'au début des années 2000, il y avait des jeux qui étaient vraiment des jeux PC. Puis il y a d'autres jeux qui étaient définitivement des jeux de console. Tu avais très, très peu de FPS multijoueurs sur console ou des RTS là, comme StarCraft, WarCraft. Des jeux de simulation à la SimCity ou des simulateurs de vol comme Flight Simulator. On dirait que les jeux sur PC aimaient ça être compliqués, comme pour montrer qu'ils étaient supérieurs aux consoles. Hashtag PC Master Race. C'est probablement le genre de climat qui a donné naissance justement à Deus Ex. Avec la sortie du nouveau, là, justement, c'était le 23 août dernier. À la fin des années 90, ça m'a fait penser au jeu qui nous a emmenés jusque-là, justement. Puis, ça porte un nom, ça. Je l'ai droppé dans le dernier épisode en passage, mais on appelle ça des Immersive Sims. Puis c'est le genre de jeu qui n'aurait jamais pu exister sur console avant le début des années 2000. Les Immersive Sims, c'est pas un genre de jeu, là. Okay? C'est un concept, c'est une école de pensée dans le design de jeu. C'est des jeux qui sont designés pour laisser le joueur agir librement dans un jeu qui tente de simuler le plus de choses réelles possible. Fait qu'on on a une série de systèmes qui simulent plein de choses différentes, puis le joueur progresse à travers ça. Donc, on retire l'emphase sur le design délibéré, comme on aurait dans un tableau de Megaman ou de Mario, ou même dans les jeux modernes, des Assassin's Creed et tout ça, qui ont quand même un chemin designé à travers les missions. On demande au joueur de se demander « qu'est-ce qui se passerait si? » Donc, pour aider à comprendre l'idée, là, il y a une couple de jeux plus récents qui sont des héritiers ou qui sont des membres des Immersive Sims. On a Dishonored. On a évidemment les deux premiers Thief. Le troisième, non. puis, en fait, parenthèse, le moment clé, là, il y avait une vidéo que j'ai vue, que j'ai trouvé magnifique, qui relevait que la preuve que c'est pas un Immersive Sim, le 3, c'est que dans Thief 1 et 2, partout où il y a une surface de bois, tu peux tirer une flèche avec une corde qui te permet de grimper puis de progresser dans l'environnement à ta guise. Dans Thief 3, il y a des markers sur certaines poutres aux endroits où tu peux tirer ta corde.
La différence est quand même notable.
Fait que forcément, le jeu, les designers savent que tu peux aller là ou tu ne peux pas aller là parce qu'ils ont décidé de te donner la possibilité de le faire. Ensuite, on a évidemment la série BioShock. On a, à un certain degré, Fallout et Elder Scrolls, mais étant donné que c'est des RPG puis qu'il y a plus un focus sur l'exploration que l'expérimentation, c'est à débattre, mais ça va rejoindre le même genre de fans. Fait que je veux pas forcément les exclure de cette définition-là. Mais les piliers du genre, on a Ultima Underworld, on a System Shock et on a, bien sûr, Deus Ex. Le terme Immersive Sims, d'ailleurs, vient de Warren Spector, le créateur de Deus Ex, dans le postmortem qu'il a écrit pour le premier jeu de la série. Le premier Immersive Sim est donc très, très peu connu et c'est Ultima Underworld. Le même vidéo, justement, que je viens de mentionner a appelé Ultima Underworld le jeu le plus influentiel auquel vous avez jamais joué. Et considérant à quel point peu de gens le connaissent, je suis enclin à être d'accord. Le jeu est sorti en 1992, donc avant Wolfenstein 3D, et possède un moteur 3D beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiqué, un jeu qui est infiniment plus riche et complexe. Dans Ultima Underworld, vous êtes dans une prison slash caverne, puis vous devez trouver la fille du baron qui y a été amenée. Fin. OK, le setup, bon, il y a un petit prélude typique à la Ultima, là, mais l'histoire du jeu, directement, ça s'arrête là. Puis comme dans beaucoup d'Immersive Sims, ben, ça prend l'apparence d'un RPG à la première personne. Parce que le but du jeu de ce genre-là, c'est l'immersion. La caverne est immense, divisée en 8 étages, puis on peut ramasser tout ce qui traîne à terre. Un bout de gazon, une roche, un os, même si la plupart auront absolument aucune fonction. Il faut se nourrir, dormir, trouver de l'équipement, on peut interagir avec plein de NPC, encore nos personnages non-joueurs, avec un système de dialogue qui ressemble beaucoup à ce qu'on va trouver plus tard dans la série Baldur's Gate.
Ben, je trouve ça vraiment le fun, cet aspect-là, parce que c'est le genre d'aspect que tu peux retrouver dans un pen and paper, là, un jeu sur table, un RPG. Puis dans ma game, j'ai un joueur qui fait ça, là, il ramasse des conneries, il dit ça peut-être servir, ça n'a jamais rien, mais tu peux le faire.
Bingo, c'est l'idée de dire que c'est des systèmes, puis le système a une constance. Le système est plus important que le design du jeu dans un Immersive Sim. Donc si tu me dis, un objet a un poids que tu es censé pouvoir transporter, pourquoi je t'empêcherais de le transporter? Fait qu'automatiquement, on parle de système, puis pas de besoin de design. Donc, si on peut ramasser absolument n'importe quoi, interagir avec les gens, puis dans un système de dialogue qui est revenu en vogue beaucoup plus tard, puis que le monde ont louangé comme étant donc ben innovateur, puis il existait plusieurs années avant, on peut attaquer qui on veut, même si ça nuit à notre progression, puis ça nous empêche de compléter certaines tâches. Puis tout ça, on le fait à la première personne, puis justement, comme je disais tantôt, dans un moteur qui est bien, bien, bien en avant sur son temps, on a de l'éclairage dynamique, on a des environnements avec des murs et des planchers en angle, ça a l'air niaiseux, mais ça a pris jusqu'à Doom avant qu'on ait ça, des hauteurs de murs qui sont variables, les objets qu'on lance utilisent un système de simulation physique pour voir où ils vont atterrir, on peut regarder vers le haut et le bas, on peut nager, on peut sauter, on peut frapper de plusieurs façons différentes selon l'arme, le type d'arme qu'on a d'équipé, on peut léviter avec des sorts. Bref, la moitié de ces features-là sont même pas dans Doom, qui est sorti un an plus tard.
Et c'est de la profondeur pour un jeu de cette époque-là. Là.
Ben, c'est ça, c'est vraiment l'idée de la technologie était au service de la simulation. Puis c'est ça. Puis tout ce qui est... c'est hyper impressionnant comme moteur, mais c'est le mélange d'options, en fait. C'est le mélange de tout ce qu'on peut faire, les différentes simulations qu'on croise, donc les NPC qui ont des comportements par rapport à leur réalité, à leur environnement, les monstres, le système de physique, la gestion des ressources, qui créent un RPG avec ce qu'on appellerait maintenant du gameplay émergent. Le jeu crée un univers qui se veut crédible, rempli d'interactions qui n'ont pas été explicitement designées par les développeurs. Ça fait 2-3 fois que je le répète, mais c'est ça, la pierre angulaire d'un Immersive Sim. Puis Ultima Underworld a vraiment offert tout ça aux joueurs pour la première fois. Beaucoup de créateurs de jeux modernes l'ont décrit comme le jeu qui les a fait comprendre le potentiel des jeux, leur a fait découvrir les mondes en 3D, puis leur a finalement montré comment un jeu pouvait atteindre le niveau de créativité que Donjons et Dragons offrait sur papier. Parce que jusqu'avant ça, on travaillait avec une palette d'outils comme joueur qui était très très limitée, puis soudainement, du jour au lendemain, les options s'ouvraient. Il y a trois personnes qu'on crédite principalement pour la création de Ultimate Underworld. On a principalement Paul Neurath, Doug Church puis Warren Spector. Les deux derniers ont continué leur chemin ensemble pour créer System Shock, un autre immersive sim chez Looking Glass Studio. Looking Glass Studio qui sont également responsables de Thief. Et ensuite, des anciens employés du studio, sous la direction de Warren Spector, ont formé Ion Storm et développé Deus Ex. Bref, l'histoire des immersive sims a longtemps été assez incestueuse, mais a donné tellement de classiques qui ont été pris sur PC pendant longtemps.
Ça aurait été génial d'avoir le tout.
Bon, là, et voilà. Puis à cause de leur complexité et de leur demande à performance élevée, ça a été long avant que ce genre de jeu-là, justement, mette les pieds sur console. Si je ne me trompe pas, le premier, c'était un port de Deus Ex sur PS2. Puis même avec le récent regain d'intérêt pour le genre, les Immersive Sims d'aujourd'hui sont les suites des séries établies, là. Deus Ex est revenu avec Human Revolution et bien sûr maintenant Mankind Divided. On a des remakes, le nouveau System Shock, qui est un remake du premier. On a des successeurs spirituel, Prey, qui se veut un successeur spirituel de System Shock. Et on a Underworld Ascent, développé par une équipe menée d'ailleurs par Paul Neurath, qui était le directeur sur le premier jeu. Puis même Bioshock, qui a été créé par Ken Levine, que j'ai pas mentionné dans notre arbre généalogique jusque-là, ben c'est un ancien de Looking Glass, qui était le lead designer sur System Shock 2, puis qui a travaillé sur le design initial et l'histoire de Thief. Fait que peut-être que les plus récents Immersive Sims ont enlevé beaucoup de la complexité mécanique qui rendait les fans des jeux de PC si fiers, là. Mais les nouveaux Deus Ex, puis si on inclut Fallout, ben Fallout aussi, ont montré qu'il y a moyen d'offrir toute la variété de ce genre-là à un nouveau public. Puis j'ai hâte de voir justement où est-ce que cette renaissance des Immersive Sims va nous amener. Good
show! Donc, pour trouver les derniers épisodes, on va au divanquest.com pour du feedback du hate mail, sur twitter.com/divanquest, sur facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com. Le podcast est disponible avec d'autres podcasts québécois sur le rzweb.com, dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com, sur Balado Québec au baladoquebec.ca, aussi sur iTunes. Hein, on est encore fatigué avec iTunes, mais on voudrait vraiment que vous nous cliquiez les 5 petites étoiles, que vous alliez faire un petit commentaire. Ça nous permet d'être plus haut dans les listes puis d'être plus visible. Puis ça nous aide à avoir plus de monde qui nous écoute. Puis si on aime ça, d'ici la semaine prochaine.
Game on! Game on!